Laudetur Jesus Christus.
Les employés du Saint-Siège appelés à la sainteté par le pape, c'était aujourd'hui le jubilé du Saint-Siège. Léon XIV a célébré la messe dans la basilique Saint-Pierre en présence de 5000 fidèles. On y revient juste après les titres. Les océans, préoccupation première des Nations Unies. Depuis ce matin et jusqu'à jeudi, la communauté internationale se retrouve à Nice pour plancher sur la protection des océans vitaux pour notre survie sur Terre. Nous entendrons le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le gouvernement israélien, sous la menace de la défection d'un de ses membres, le parti chasse de juifs ultra-orthodoxes, il s'insurge contre la loi sur la circonscription qui contraint les ultra-orthodoxes à servir dans l'armée. Un effort massif est nécessaire pour faire face à la menace russe. Le secrétaire général de l'OTAN exhorte les pays membres, dont le Royaume-Uni, où il était aujourd'hui, à augmenter notamment de 400% ses dépenses en matière de défense anti-aérienne.
Radio Vatican, le journal. Xavier Sartre.
Bonsoir. Qu'ils soient cardinaux, chefs de dicastère, cérémoniaires du pape, médecins, pharmaciens, conservateurs des musées du Vatican, gendarmes, jardiniers ou journalistes de Radio Vatican, ce lundi, c'est le jubilé du Saint-Siège. Quelques 5000 personnes ont ainsi passé la porte sainte de la basilique Saint-Pierre avant d'assister à la messe célébrée par le pape ce matin. En ce lundi de Pentecôte, où l'Église célèbre la mémoire liturgique de Marie, mère de l'Église, Léon XIV a invité à se placer sous le regard maternel de la Mère du Christ, Marie Noriot.
Entouré des employés du Saint-Siège, Léon XIV est d'abord revenu sur la fécondité de Marie, une fécondité essentielle, a-t-il dit, car c'est elle qui soutient Pierre dans son ministère et surtout, a expliqué le nouveau pape, cette fécondité de Marie est la même que celle de l'Église, elle est inséparable de la sainteté de l'Église. Dans la deuxième partie de son homélie, en cette journée spéciale, comme il l'a dit lui-même, de jubilé du Saint-Siège, Léon XIV en a profité pour expliquer aux employés et aux religieux présents dans la basilique sa vision de leur mission.
Il modo migliore di servire la Santa Sede è cercare di essere.
C'est pourquoi, dit Léon XIV, la meilleure façon de servir le Saint-Siège est de s'efforcer d'être saint, chacun selon son état de vie et la tâche qui lui est confiée. Une sainteté du quotidien illustrée par l'évêque de Rome utilisant l'exemple d'un père ou d'une mère de famille qui vit une situation difficile à la maison mais qui poursuit son travail avec engagement. Cet homme et cette femme sont féconds dans la fécondité de Marie et de l'Église, a-t-il dit. Enfin, dernier aspect du Saint-Siège développé par le pape, le fait de reposer finalement sur deux pôles, un pôle marial et un pôle pétrinien dépendant l'un de l'autre, le pôle marial assurant la fécondité et la sainteté du pôle pétrinien.
Marie Noriot est parmi les membres du Saint-Siège, les nonces apostoliques. Ils seront reçus demain matin au palais apostolique par le pape. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État, lui-même ancien nonce, revient dans un entretien exclusif avec les médias du Vatican sur la diplomatie du Saint-Siège, une diplomatie de l'Évangile. Un entretien retrouvé sur notre site internet www.vaticannews.va. Les océans, pour la première fois véritablement au cœur d'un sommet international à Nice, dans le sud de la France, plus de 60 chefs d'État, une myriade d'ONG et de scientifiques ont assisté à l'ouverture ce matin de la troisième conférence internationale de l'ONU sur les océans. Jusqu'à jeudi prochain, les différentes parties doivent trouver des solutions pour enrayer la dégradation de ces espaces de biodiversité nécessaires à la planète. Plusieurs pays doivent annoncer la création d'aires marines protégées. Un engagement est aussi attendu sur la protection des hauts fonds marins menacés par la pêche. En ouvrant les travaux, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité des pas en avant, mais il reste encore fort à faire dans la protection efficace des océans, a-t-il dit.
Since the last UN Ocean Conference in Lisbon,
depuis la dernière conférence des Nations Unies sur les océans qui s'est tenue à Lisbonne, nous avons constaté des progrès. Nous avons également constaté une prise de conscience croissante de la profonde interconnexion entre la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins, la lutte contre le changement climatique et l'arrêt de la pollution. Cela prouve que le multilatéralisme fonctionne, mais seulement si nous joignons le geste à la parole, en élaborant des plans nationaux concrets alignés sur les objectifs mondiaux, en exploitant la science, en stimulant l'innovation et en garantissant un accès équitable à la technologie, en responsabilisant les pêcheurs, les populations autochtones et les jeunes, et surtout en investissant. Nous devons intégrer les priorités relatives aux océans dans les domaines du climat, des systèmes alimentaires et de la finance durable. Car sans océans en bonne santé, il ne peut y avoir de planète en bonne santé. Les nations naviguent également dans de nouvelles eaux en ce qui concerne l'exploitation minière des fonds marins. Les grands fonds marins ne doivent pas devenir le Far West.
Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ce matin à l'ouverture de la troisième conférence des Nations Unies sur les océans. De l'autre côté de la Méditerranée, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne et ses supplétifs palestiniens ont ouvert le feu ce matin sur la foule qui se dirigeait au sud de la ville de Rafah vers un point de distribution de nourriture géré par la Fondation humanitaire de Gaza. Cette ONG américaine, soutenue par les gouvernements israéliens et américains, bilan 8 morts selon les autorités médicales palestiniennes. Plus de 130 personnes ont été tuées dans des circonstances similaires depuis que l'aide humanitaire passe par cette ONG. Le gouvernement de coalition israélien fait face à une menace plus grave que le Hamas, une menace née de la loi sur la conscription. Ce lundi, le parti chasse, un des deux partis ultra-orthodoxes alliés du Likoud au gouvernement, menace en effet de faire défaut au Premier ministre Benjamin Netanyahou lors d'un vote mercredi, Marie Duhamel.
Oui, nous ne sommes pas heureux de faire tomber un gouvernement de droite, mais nous avons atteint nos limites. Sans solution, ce sera la dissolution. La menace a été formulée en direct à la radio publique ce lundi par Asher Medina, le chef du Chass. Il réclame le maintien d'exemptions militaires accordées aux ultra-orthodoxes pendant des décennies, les Haredim, qui consacrent leur vie à l'étude de la Torah, tandis que leurs écoles et familles, souvent pauvres, bénéficient d'avantages économiques. Une position que la justice rejette. La procureure générale veut que des ordres de mobilisation soient émis pour la prochaine année de circonscription, qui commence en août. Les ultra-orthodoxes sont sous pression maximale, d'autant que 85% des juifs israéliens soutiennent un changement de loi en leur défaveur. Ils sont las de payer à eux seuls impôts et morts potentiels, en somme le poids d'une guerre qui sert en outre au maintien au pouvoir de la coalition de droite. Mais aujourd'hui, même au sein du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, on souhaite l'enrôlement des Haredim et des sanctions plus lourdes pour les insoumis. Pour l'instant, le Premier ministre temporise et on attend maintenant le vote au Parlement de mercredi. Et c'est une petite alliance de partis de gauche, il a demandé, tentant de capitaliser sur la fronde des ultra-orthodoxes.
Marie Duhamel. Un nouvel échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine, annonce faite aujourd'hui par Moscou et confirmée par Kiev. Sa libération intervient comme convenu la semaine dernière lors d'un deuxième cycle de pourparlers de paix à Istanbul entre les deux belligérants. Il s'agit de jeunes hommes de moins de 25 ans. Aucune précision n'a cependant été donnée sur le nombre de soldats concernés. Le président ukrainien a ajouté que ces échanges se poursuivront dans les prochains jours. La guerre en Ukraine, elle bouleverse l'OTAN et ses membres. Aujourd'hui, son secrétaire général, Mark Rutte, était en visite à Londres. L'occasion pour lui de demander aux États membres d'augmenter de 400% leur capacité de défense aérienne et de missiles balistiques. Car, estime-t-il, la menace russe ne disparaîtra pas avec la fin de la guerre en Ukraine. Un message entendu par le gouvernement britannique. À Londres, Jean Jaffray.
La visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, intervient une semaine après la publication d'un livret blanc visant à adapter la stratégie de défense du Royaume-Uni faisant face à une menace extérieure dans un monde devenu instable, notamment après l'agression russe en Ukraine. Le Premier ministre a instamment demandé aux Britanniques d'être prêts à être en ordre de bataille. Keir Starmer s'est engagé à investir 30 milliards de livres pour augmenter les capacités de défense face notamment aux risques nucléaires et aux attaques cybernétiques émanant de la Russie, mais sans révéler le financement de ce programme militaire, promettant toutefois de porter le budget de la défense à 3% du PIB à partir de 2029. Or, le président Trump a enjoint les membres de l'OTAN de consacrer 5% du PIB à la défense. Les trois pays baltes et la Pologne sont les pays qui dépensent le plus pour leur défense par rapport au PIB. Chaque jour, nous voyons que la Russie sème la terreur en Ukraine, a déclaré à Chatham House le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Il nous faut des milliers de véhicules blindés et de chars supplémentaires et doubler nos capacités logistiques. Londres, Jean Jaffray, Radio Vatican.
Et Moscou a immédiatement réagi. L'OTAN se révèle être un instrument d'agression et de confrontation, dit Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. On négocie beaucoup en ce moment, c'est le cas entre les États-Unis et la Chine, au sujet de leurs droits de douane réciproques. Un nouveau cycle de discussions a commencé aujourd'hui à Londres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. Très bonne soirée à toutes et à tous.